VOA Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous. Le Monde aujourd'hui, édition du mardi 18 décembre 2018, en direct de Washington. Jean-Roger Billon.
Et Anne Albertson.
On commence par les titres.
Dernier jour de campagne aujourd'hui au Togo dans le cadre des législatives boycottées par l'opposition. Les militaires votent aujourd'hui par anticipation.
La France va fournir des véhicules à l'armée burkinabé. Cet appui se situe dans le cadre de la lutte contre le terrorisme au Sahel.
Compte à rebours au Congrès américain pour parvenir à un accord budgétaire avant vendredi minuit. Faute de quoi, le gouvernement fédéral va faire face à une nouvelle paralysie.
Élection est faite de fin d'année en République démocratique du Congo. Une équation difficile pour les citoyens congolais. Abdourahmane Dia, envoyé spécial de VOA Afrique, nous propose une immersion dans le quotidien des Quinoa avant le scrutin crucial du 23 décembre.
À suivre également notre page sport ainsi que la Minute Éco.
Pour l'instant, le journal.
Au Togo, la campagne électorale pour les législatives du 20 décembre s'achève aujourd'hui à minuit. Depuis quelques jours, des voix s'élèvent pour demander le report du scrutin sans gain de cause. À 48 heures de cette élection, les forces armées et de sécurité votent par anticipation. Le point à Lomé de notre correspondante Kayi Lawson.
Les forces armées de sécurité sont appelées aux urnes ce mardi. Dernier jour de campagne électorale au Togo. Elles votent par anticipation, dit-on, pour pouvoir sécuriser le scrutin le 20 décembre. Les législatives vont se tenir malgré plusieurs appels au report de certaines couches de la société togolaise. Après le Conseil épiscopal du Togo, les chrétiens protestants évangéliques ont appelé au report du scrutin. Des leaders musulmans et des organisations de la société civile ont également appelé au report de ces élections. Le porte-parole du gouvernement togolais Gilbert Bahara martèle que les élections auront bel et bien lieu le 20 décembre. Il rappelle qu'il est temps de tourner cette page électorale pour se consacrer aux questions de développement et de la reprise économique après des mois de tensions politiques. La campagne électorale débutée le 4 décembre a été endeuillée par la mort de 5 Togolais lors des manifestations de la coalition des 14 partis de l'opposition qui appellent au boycott du processus électoral. Kailosson, Lomé, VOA Afrique.
En Côte d'Ivoire, la coalition au pouvoir a remporté la cité balnéaire de Grand Bassam, mais perdu Port Boué, une des grandes communes d'Abidjan, lors des élections municipales partielles de dimanche, selon des résultats officiels proclamés hier lundi. Compte rendu, Bagasikoura.
Selon les résultats annoncés par la commission électorale indépendante à Grand Bassam, Jean-Louis Moulo, du RHDP au pouvoir, a battu avec 51,91% des suffrages le maire sortant Georges Azalé du PDCI qui obtient 45,72%. Monsieur Azalé promet de déposer un recours, soulignant qu'un écart de quelques 1000 voix sur 16 000 le sépare de son adversaire. Il a rappelé que lors du scrutin du 13 octobre, il avait obtenu 1600 voix d'avance sur Monsieur Moulo dans les 4 bureaux de vote qui ont été saccagés dimanche par des individus armés non identifiés dont les bulletins n'ont pas été pris en compte par la CEI. À Port Boué, où le vote et le dépouillement ont eu lieu dans la tension avec une tentative d'intrusion à la CEI locale repoussée à coups de feu, le candidat du PDCI, Sylvestre Emou, a largement battu le ministre du Tourisme, Siadou Fofana, du RHDP. Le précédent scrutin du 13 octobre a été marqué par des violences qui ont fait au moins 5 morts. Ce vote a été annulé par la Cour suprême en raison d'irrégularités dans 6 communes et 2 régions du pays.
En 2019, la France va livrer au Burkina Faso 34 pick-up armés pour aider à renforcer sa lutte contre les groupes djihadistes au Sahel. Des détails avec Ekiabadou.
Le président burkinabé Roch Marc Christian Kabore a signé cet accord après s'être entretenu hier avec Florence Parly, la ministre de la Défense à Paris. Le chef de l'État burkinabé a par la suite été reçu à l'Élysée par le président Emmanuel Macron. Les questions sécuritaires ont dominé l'entretien. La France restera un partenaire indéfectible du Burkina Faso, a affirmé M. Macron, un peu plus d'un an après sa visite à Ouagadougou, c'était le 28 novembre 2017. Selon lui, la France répond à l'intégralité de ses engagements vis-à-vis des pays du G5 Sahel en lutte contre les groupes djihadistes très actifs dans l'est et le nord du Burkina. Pour sa part, le président Kabore a souligné l'urgence de la situation sécuritaire qui a provoqué la fermeture de 600 écoles dans son pays. La force Barkhane a répondu aux demandes de Ouagadougou en engageant des moyens aériens et terrestres ces derniers mois, mais il n'est pas prévu d'augmenter notre implication, a indiqué M. Macron. Le Burkina doit prendre en février pour un an la présidence tournante du G5 Sahel.
Au Bénin, l'affaire ICC Service baptisée l'affaire Madoff à la Béninoise, le plus gros scandale financier du pays a commencé à être jugé hier à Porto Novo devant un tribunal spécial. Nani Talani.
10 personnes ont été appelées à la barre de la nouvelle Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Elles sont accusées d'associations de malfaiteurs, escroquerie, exercice illégal d'activité bancaire et de corruption. Seules 6 personnes ont comparu hier, dont Guy Aplogon, président directeur général de ICC Services, dans le box des accusés après 8 ans de détention. Elles ont toutes plaidé non coupables. Selon un rapport du FMI, 204 structures de placement d'argent ont spolié 150 000 épargnants entre 2006 et 2010 pour un total estimé à plus de 150 milliards de francs CFA, leur permettant des taux d'intérêt faramineux entre 100 et 300%. D'anciens ministres, hauts fonctionnaires, responsables de la sécurité et des renseignements à l'époque, doivent témoigner dans les prochains jours devant ce tribunal spécial.
Plus de 3600 personnes ont été tuées dans des affrontements entre agriculteurs et éleveurs au Nigeria depuis 2016, a déclaré lundi Amnesty International, en accusant les autorités de favoriser l'escalade faute de punir les auteurs des violences. L'armée nigériane a réagi en menaçant de faire fermer les bureaux d'Amnesty International dans le pays, et la présidence a ajouté être préoccupée par les activités de l'ONG sur un autre front, la lutte contre les islamistes armés de Boko Haram.
En Somalie, l'armée américaine a annoncé lundi avoir tué 62 islamistes Shebab lors de 6 frappes menées au cours du week-end, alors que le rythme des opérations des forces spéciales en soutien au gouvernement somalien s'accélère. 4 frappes ont été menées samedi dans la région de Gandache, dans le sud de la Somalie, tuant 34 Shebab, a précisé un communiqué le commandement militaire américain, l'AFRICOM. 2 autres frappes ont été menées dimanche dans la même région, tuant 28 autres militants. Ces nouvelles opérations portent à 45 le nombre de frappes américaine menée depuis le début de l'année contre les Shebab en Somalie, a indiqué un porte-parole du Pentagone.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
James Comey, ancien directeur du FBI, renvoyé en 2017 par Donald Trump, a critiqué hier les mensonges du président américain et appelé les élus républicains à lui résister. La réputation du FBI a été écornée parce que le président des États-Unis, avec ses acolytes, a menti en permanence à son propos. Face à ces mensonges, beaucoup de gens bien croient ces absurdités, a dénoncé M. Comey devant des journalistes dans les couloirs du Congrès. James Comey était à nouveau auditionné à huis clos lundi par des parlementaires à propos notamment de l'enquête sur les emails de la candidate démocrate Hillary Clinton pendant la campagne de 2016.
La course contre la montre à Washington pour éviter une rupture de financement dans les services publics américains. Le président Donald Trump exige 5 milliards de dollars pour financer la construction d'un mur à la frontière sud. Les démocrates font de la résistance. L'impasse risque de paralyser une partie du gouvernement fédéral. Lionel Gaïma.
La date butoir pour parvenir à un accord est le vendredi 21 décembre à minuit. Les sénateurs sont revenus lundi à Washington. Les représentants ne sont pas attendus au Capitole avant demain mercredi. Il ne restera que 2 jours pour trouver un compromis et éviter l'impasse budgétaire. Le président Donald Trump veut 5 milliards de dollars pour financer un mur de séparation avec le Mexique. Il n'obtiendra pas ce mur sous quelque forme que ce soit, a averti Chuck Schumer, chef des démocrates au Sénat. Son parti propose seulement 1,6 milliard de dollars pour la sécurité aux frontières. M. Trump a donc engagé un forcing inédit à coup de tweets. Le temps presse car il aura une marge de manœuvre plus réduite en janvier avec l'arrivée d'une nouvelle majorité démocrate à la Chambre des représentants issue des élections de mi-mandat. La menace de fermeture de certaines agences fédérales est donc réelle, mais aura une portée limitée. Le Congrès a déjà adopté le financement de presque 75% des branches de l'exécutif fédéral. Mais beaucoup de ministères seront perturbés avec des dizaines de milliers de fonctionnaires qui seront placés en congé sans solde.
Le président Xi Jinping a déclaré aujourd'hui que nul ne peut dicter sa conduite à la Chine. C'était en célébrant en grande pompe à Pékin les 40 ans de réformes économiques et en promettant de poursuivre l'ouverture. Les États-Unis et la Chine se sont livrés à des surenchères de droits de douane ces derniers mois, toutefois suspendus pour 90 jours, après que le président Xi et son homologue américain Donald Trump furent convenus d'une trêve début décembre pour laisser une chance à la négociation. Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
maintenant la Minute Éco avec Nani Talani.
La Guinée bénéficiera de plus de 50 millions de dollars de la Belgique pour, entre autres, soutenir l'entrepreneuriat agricole avec une attention particulière sur les femmes. Selon Ecofin, ce projet devrait cibler les entrepreneurs et les entreprises agricoles actifs dans la production de l'ananas, de la pomme de terre et de la mangue. Il permettrait aussi de créer 12 000 emplois dont plus de 40% iront aux femmes. Le Sénégal vient d'obtenir auprès de ses partenaires internationaux 7 356 milliards de francs CFA pour la deuxième phase de son plan visant à le transformer en pays émergent d'ici 2035. Les secteurs prioritaires de cette deuxième phase seront notamment l'agriculture, l'agro-industrie, les infrastructures, l'énergie, l'économie numérique, le tourisme et la finance. La première phase a permis au Sénégal de moderniser ses infrastructures avec notamment un nouvel aéroport international et l'ouverture d'une nouvelle autoroute de 115 km. Enfin, la compagnie aérienne Ethiopian Airlines reprend ses vols vers Moscou, interrompus depuis 27 ans avec la chute de l'Union soviétique. Ethiopian Airlines reliera Moscou à Addis Abeba 3 fois par semaine. Cette liaison aérienne est un moteur essentiel pour la croissance économique éthiopienne. Pour la Russie, il s'agit d'une stratégie de reconquête géopolitique et économique en Afrique.
À présent, la page des sports avec vous, Yakuba Ouedraogo. Bonjour Yakuba, on connaît les affiches des huitièmes de finale en Ligue des Champions.
Oui, le triple tenant du titre, le Real Madrid, a été plutôt épargné par le tirage au sort des huitièmes de finale. Les Madrilènes feront face aux Néerlandais de l'Ajax Amsterdam en février. Liverpool, finaliste, aura fort à faire contre le Bayern Munich. Dans les autres matchs des huitièmes de finale, on aura Schalke 04, Manchester City de l'Algérien Riyad Mahrez. Gros match en vue entre l'Atlético Madrid du Ghanéen Thomas Partey et la Juventus Turin de Ronaldo et du Marocain Mehdi Benarfa. Manchester United d'Eric Bailly fera face au Paris Saint-Germain de Maxime Choupo-Moting. Manu ne va pas bien en championnat, mais l'entraîneur adjoint du club parisien préfère jouer la carte de la prudence. Écoutons Zoumana Camara.
C'est vrai que pas mal de gens nous voient favoris parce que c'est une équipe qui va pas très bien en championnat cette saison. Mais je le répète encore une fois, le visage que peuvent montrer les équipes aujourd'hui et ce qu'elles montreront en février-mars, ça peut être autre chose. C'est une équipe qui a de fortes individualités. Donc il va falloir rester très vigilant. On aura le temps de repenser à ce match et de se préparer.
À suivre aussi Tottenham, Borussia Dortmund, mission compliquée pour Lyon du Burkinabé Bertrand Traoré et de l'Ivoirien Maxwell Cornet face à la montagne FC Barcelone et AS Rome FC Porto. Les rencontres allées auront lieu mi-février et les manches retour début mars.
Les Londoniens épargnés en Ligue Europa.
Arsenal et Chelsea, les deux clubs londoniens favoris, ont été vernis au tirage au sort des huitièmes de finale avec respectivement les Biélorusses de Bate Borisov et les Suédois de Malmö pour adversaires. La principale affiche mettra aux prises la Lazio Rome et le FC Séville, quintuple vainqueur de la compétition. Autre club italien, le Napoli de Carlo Ancelotti, reversé en Ligue Europa, a eu plus de chances avec Zurich. Le Shakhtar Donetsk a hérité de Francfort. Rennes, dernier représentant français en Europa League, affrontera les Espagnols du Betis Séville. Il y aura de la ferveur dans la double confrontation entre les Turcs de Galatasaray et les Portugais du Benfica. Le Celtic devra quant à lui battre Valence pour accéder au huitième de finale.
2 mois d'absence pour Kondogbia.
Le milieu de terrain international centrafricain Geoffrey Kondogbia souffre d'une lésion musculaire aux ischio-jambiers. Il s'est blessé mercredi dernier lors de la victoire de Valence face à Manchester United 2-1 en Ligue des Champions. Kondogbia rejoint ici à l'infirmerie son coéquipier portugais Gonçalo Guedes, opéré vendredi et qui sera lui aussi absent pendant au moins 2 mois. NBA, les résultats de la nuit dernière.
Oui, Yakuba, Milwaukee a disposé de Detroit 107-104, Phoenix a battu les Knicks de New York 128-110, Utah Jazz a été défait par Houston Rockets 97-109, Sacramento a été dominé par Minnesota 105-132, Oklahoma City a surclassé Chicago Bulls 121-96 et Philadelphie s'est incliné face à San Antonio 96-120.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Jean-Roger Billon, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. En RDC, la campagne électorale amorce son dernier virage. Elle se clôture officiellement le vendredi 21 décembre à minuit. Les favoris à la présidentielle annoncent déjà de grands rassemblements à Kinshasa, la capitale. Face au risque d'affrontement, la police invite la population à prendre des dispositions pour sécuriser chacun des camps politiques. Reportage de Thierry Kabundi de Top Congo FM, nos stations partenaires à Kinshasa.
Après avoir drainé des foules en province, Martin Fayulu, Emmanuel Ramazani Shadari et Félix Tshisekedi annoncent des grands rassemblements populaires à Kinshasa pour clôturer leur campagne électorale. Le stade des Martyrs, le stade Père Raphaël ou encore la place Triomphale sont des endroits ciblés par ces candidats à la présidentielle pour mesurer ou mieux démontrer leur popularité dans la capitale avant les élections du 23 décembre courant. Mais face à d'éventuels débordements et affrontements, des appels à la paix et à la tolérance sont lancés. Jean Baudouin Mayo, le secrétaire général de l'UNC de Vital Kamerhe, est l'un des soutiens de la candidature de Félix Tshisekedi.
La campagne de la coalition CASH, Tshisekedi, Kamerhe, se passe en toute quiétude, en toute sérénité. Les forces de l'ordre sont là aux partisans de CASH de continuer à être patriotes. Ce n'est pas un moment de combat. Nous sommes tous fils et fils de ce même pays et nous devons le protéger.
À la coalition Lamouka, qui soutient la candidature de Martin Fayulu, on lance également un message de paix et on interpelle la police. Christophe Lutundula.
C'est d'abord un message de paix. Nous ne sommes pas des conflictuels, nous sommes des non-violents, nous sommes des démocrates. Nous interpellons la conscience à la fois civique et morale même de tous les compétiteurs pour qu'on ne tienne pas de discours, de violence, de haine. Allons aux urnes de 23 en disant qu'on pose un acte citoyen qui va déterminer l'avenir du pays. Et à ceux qui ont la responsabilité d'organiser les élections, nous leur demandons, il faut toujours assurer les Congolais, éviter tout ce qui peut énerver.
Le même appel est relayé par André Alain Atundu, porte-parole de la majorité présidentielle et cadre du Front commun pour le Congo, la coalition au pouvoir.
Ceux qui vont au meeting, qu'ils disent à leurs militants d'aller poursuivre le meeting et non pour perturber l'ordre public. En tout cas, en ce qui nous concerne, nos militants, ce sont des légalistes qui suivent les consignes des autorités civiles et militaires et ils suivent également les consignes des autorités politiques que nous sommes.
La police, de son côté, affirme par l'entremise de son porte-parole, Piero Mwanamputu, être en train de prendre des dispositions pour sécuriser au même titre toutes les parties jusqu'à la fin de cette campagne électorale. Dans les rues de Kinshasa, les personnes interrogées espèrent pour leur part vivre une bonne ambiance de fin de campagne et demandent à la police de faire son travail en toute impartialité.
C'est une bonne guerre d'abord, je peux dire. Et surtout que c'est les derniers jours. Nous voulons voir tous ces leaders-là à Kinshasa, chacun dans son coin. Comme ça, on va peut-être mettre fin au débat des plaies par rapport à Kinshasa. En tout cas, moi, je pense que c'est lui qui fera les plaies à Kinshasa. C'est lui le candidat président de la République. Et la police est là pour sécuriser tout le monde, que ce soit du côté de l'opposition, que ce soit du côté du pouvoir.
Il faudra prendre des dispositions. Je tiens à rappeler à la police nationale congolaise qui doit veiller sur ces meetings pour éviter également de dérapages.
Déjà trois candidats majeurs à la présidentielle. Vous avez Fachi et son directeur de campagne qui sont populaires à Kinshasa, Fayulu également et Shadari aussi. Alors à mon avis ça peut déjà dégénérer vu que ce serait un moment crucial à la fin de la campagne. Vu la tension politique qu'il y a.
Kinshasa, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
On reste en RDC pour scruter les aléas de la campagne. Près de la moitié de la population congolaise est catholique et pour cette raison, Noël a toujours été l'occasion de célébrer. Mais cette année, cette période se tiendra deux jours après un scrutin crucial. La campagne électorale et son lot de tensions semblent avoir ralenti les achats et les préparatifs. C'est le constat de notre envoyé spécial à Kinshasa, Abdourahmane Dia.
La pluie a fini de s'abattre sur Kinshasa en cet après-midi. Des populations qui vaguent tranquillement à leurs occupations dans la circonscription de la Gombe, envahie par des affiches de campagne. Et pourtant, à quelques jours de Noël, les commerçants essaient d'attirer les clients alors que l'attention est plutôt tournée vers ce scrutin de 23 décembre. Niki est responsable d'un supermarché.
C'est un peu difficile parce que c'est le chute de 40%. Donc, c'est-à-dire, l'année passée, c'était les ventes bien. Maintenant, cette année, c'est le shit. Donc, il n'y a pas beaucoup de ventes. Pourquoi? Parce que tout le monde en attend pour une situation politique, tout ça, c'est ça.
Et justement, la situation politique en RDC est un sujet de préoccupation au marché central. Cette dame, Nelly, a profité de notre micro pour envoyer un message fort aux politiques.
Les parents, au lieu d'acheter des chaussures, préfèrent acheter du riz pour nourrir les enfants. Acheter des chaussures ou des habits devient difficile. Pour eux, c'est d'abord le manger. Ils craignent qu'il y ait des événements le 23 décembre, le jour du vote. Les jours se suivent et rien n'est clair. Ces affaires de politique, nous ne faisons pas de politique. Notre métier, c'est de vendre, chercher de l'argent et nous nourrir. Que les politiciens nous laissent. Nous voulons que ce pays se développe et que nos enfants mangent bien. Nous voulons fêter. Alors, qu'on nous évite une guerre. Nous refusons la guerre.
Cette jeune mère de famille, Pamela, nous l'avons trouvée chez elle au quartier de Matongé. Fêter Noël n'est pas sa priorité.
Jusque-là, nous n'avons rien acheté pour les fêtes. Avec tout ce désordre qui pourrait survenir, on n'est pas sûr et on ne sait même pas comment ça va se passer. On dit que le 23, avec ces élections, il y aura du désordre. On n'a rien comme argent. S'il y a du désordre, ce sera très pénible. Je cherche à stocker ma nourriture, mais je n'ai pas d'argent.
Le gouvernement promet un scrutin paisible et sécurisé. Ces commerçants et consommateurs espèrent une fin de campagne et un scrutin plutôt apaisé. Abdourahmane Dia, VOA Afrique, Kinshasa.
Le Monde aujourd'hui vous convie du lundi au vendredi à une édition spéciale sur les élections en République démocratique du Congo. Rendez-vous tous les jours avant et après les élections en RDC à 17h45, 18h45, 19h45 temps universel et dans le matinal pour des reportages, analyses et réactions des citoyens ordinaires et toute la classe politique. Le dimanche 23 décembre, jour du scrutin, nous vous proposons trois éditions spéciales. De 14h30 à 15h temps universel, de 18h30 à 19h temps universel et de 20h à 21h temps universel. Nous aurons aussi deux éditions spéciales en Lingala de 14h à 14h30 temps universel et de 16h à 16h30 temps universel. La Voix de l'Amérique toujours à votre service pour une information juste et équilibrée. Écoutez VOA Afrique.
Direction le Sahel, comment vit-on dans une zone sous constante menace terroriste? Dans l'est du Burkina, la situation est préoccupante. Des fonctionnaires y ont abandonné leur poste et des dizaines d'écoles ont fermé suite à des attaques ou des menaces ouvertes de présumés terroristes. Notre correspondant Issa Napon nous retrace les difficultés liées à l'insécurité dans cette partie du pays frontalière avec le Niger. Aujourd'hui, nous parlons des conséquences de la psychose sur les activités économiques dans la région.
Nous sommes à Fada, capitale régionale de l'Est. L'activité économique ici repose sur l'exploitation des ressources naturelles ainsi que l'élevage, avec notamment l'un des plus grands marchés de bétail du pays. Mais depuis des mois, les choses tournent au ralenti. Raison principale, les sécurités liées à l'activité des groupes terroristes. Le colonel Ousmane Traoré est le gouverneur de la région de l'Est.
Effectivement, l'Est a toujours été reconnu comme une région où sévissait le grand banditisme. Mais c'est dû au fait que c'est une région aussi qui était dans une dynamique de développement. Notre région est riche en minerais. On a pratiquement 75% de la faune représentés au Burkina. Ce qui a favorisé aussi leur installation, c'est que nous partageons trois frontières, le Bénin, le Niger et le Togo et du Ghana. Et ces gens, très facilement, ils arrivent à passer d'un pays à l'autre sans qu'on ait pu prendre les dispositions nécessaires pour les arrêter.
Ici à Fada, la méfiance et la prudence sont de mise au sein de la population. Un poids terrible pour le fonctionnement de l'économie locale. Les commerçants ayant requis l'anonymat désespère de la situation.
C'est tournant, vraiment, on a su, on prend rien, vraiment, c'est pas facile. Et même pas Marseille.
Beaucoup de gens ne viennent pas vers la région de l'Est encore. Et nous qui vendons sur place, les gens
ne vient plus comme avant. Les gens préfèrent aller directement au Putenga ou bien à Ouagadougou comme ça. Les gens ne viennent plus vers Fada.
Une situation précaire que vivent les 5 provinces de la région en proie au grand banditisme, mais bien plus, explique le colonel Ousmane Traoré.
Il y a 2 groupes. En fonction des intérêts, nous avons par exemple ceux qui sont installés à la frontière du Niger, dans la Koumandiari, qui effectivement se sont adossés à des leaders religieux et qui ont un message religieux. Maintenant, il y a les groupes qui sont au niveau de la Kompienga, où il n'y avait pas de message religieux. Leurs objectifs, c'était de piller les ressources. On dit effectivement dans cette zone que c'est des terroristes. Par rapport aux méthodes qui sont employées, les premières mines artisanales qui ont été utilisées, c'était dans cette zone contre les forces de défense et de sécurité. La plupart de ceux qu'on a pu appréhender sont allés au Mali se former. Et à 80%, ce sont des Burkinabés.
Dès 20h, de rares commerces restent encore ouverts. Se pose alors la question de savoir ce que devient le groupe d'autodéfense Kogoluego de la région qui s'est donné pour mission d'assurer la quiétude partout où les forces régulières ne sont pas présentes. À 68 ans, l'un des leaders de Kogoluego, de Fadan Gourma, pense que le manque de soutien de l'autorité leur a été préjudiciable.
Avant que ces gens-là ne s'installent, j'ai averti à la gendarmerie. Il dit, on a vu des gens qui veulent s'installer dans la forêt. La gendarmerie dit non, si on donne des armes, on sera un jour contre l'État, etc. Est-ce que tu penses que l'État va nous écouter?
Le gouvernement travaille à une stratégie pour venir à bout de l'insécurité, tient à rassurer le gouverneur de la région de l'Est. Mais en attendant, les populations doivent continuer à vivre avec cette peur des lendemains incertains. Issa Napon Ouagadougou, VOA Afrique.
Dakar, la capitale du Sénégal, a désormais un musée des civilisations noires. Selon ses initiateurs, ce musée aura pour but de mettre en valeur toutes les cultures africaines. Un grand musée qui s'ouvre donc sur le continent, alors qu'elle lançait la question du retour en Afrique des objets d'art pillés, notamment pendant la colonisation. Reportage de notre correspondant à Dakar, Seydina Abagay.
Le nouveau musée situé dans le centre de la capitale sénégalaise a une superficie de 14 000 mètres carrés. L'institution qui peut accueillir 18 000 pièces veut mettre en exergue la contribution de l'Afrique au patrimoine culturel et scientifique, selon son directeur Amadi Bokoum. À l'heure où la question de la restitution des œuvres africaines se pose, le musée des civilisations noires vient comme une réponse à ceux qui disent que l'Afrique n'a pas d'infrastructure pour accueillir ses trésors culturels. C'est l'avis du professeur Felwine Sarr, enseignant chez à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Il a co-dirigé la mission d'étude pour la restitution temporaire ou définitive des œuvres africaines au pays d'origine.
L'intérêt du musée, c'est que c'est une infrastructure dans laquelle on peut déployer un récit sur notre histoire, notre longue histoire africaine. On peut aussi déployer un récit sur nos projections vers le futur, à notre place au monde. Un musée comme celui-ci, avec 14 000 mètres carrés de surface, qui peut accueillir 18 000 œuvres, non seulement peut accueillir les œuvres du Sénégal, mais pourrait accueillir des œuvres du Bénin, du Niger, de la Côte d'Ivoire, pourrait même être un musée sous-régional. On peut avoir une vision sous-régionale du musée, où certains états qui ne seraient pas suffisamment dotés en infrastructure donc peuvent utiliser ce musée-ci. Donc je trouve que c'est une réponse éclatante et importante dans le débat actuel aussi sur la restitution des œuvres d'art.
Ce musée permettra aux jeunes Sénégalais et Africains de mieux vivre leur culture, mais surtout de mieux connaître le legs de leurs ancêtres. L'historien et professeur de lettres modernes Massa Mbambayi affirme que cela ne peut être que bénéfique à l'Afrique.
Ce musée montre la valeur de l'homme noir et de tout ce qu'il a fait dans ce monde. C'est notre fierté parce que ça répond aux 12 questions que le blanc avait posées à Serigne Touba. Dans ce musée, il y a l'œuvre d'El Hadji Malick Sy, de Mamiba Moulay et de tous les érudits du pays. Ce musée doit servir d'exemple à toute la jeunesse. Les jeunes n'ont pas besoin d'aller chercher des références. Tout est là.
Lilian Thuram, champion du monde de football avec la France et combattant engagé dans la lutte contre le racisme, affirme que ce musée va surtout pour permettre aux jeunes Africains de la diaspora de revendiquer leur identité.
Lorsque vous êtes afro-descendant, vous vivez dans un monde où la culture dominante vraiment est une culture blanche. Et très souvent, on vous a appris un mépris de vous-même. Et donc voilà pourquoi il est intéressant d'avoir ce musée. Pour qu'en fait, les gens comprennent qu'il n'y a pas de hiérarchie selon la couleur de la peau. Ça veut dire que vous développez une estime de vous-même. Et je pense que c'est ce qu'il faut développer chez les jeunes générations.
Les acteurs culturels espèrent que ce projet panafricain permettra à la culture africaine d'avoir la place qui lui revient de droit dans le paysage mondial. À Dakar, Seydina Abagay pour VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, En direct de Washington, ce sera tout pour cette édition matinale. Jimmy Cook à la console, merci à Anne Alberson. Un grand merci à toute la rédaction de VOA Afrique. Jean-Roger Billon à ce micro, mardi 18 décembre. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.